Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, au micro et à la technique Adeline Wegmans. Aujourd'hui, nous allons retrouver Laurence Rosier, professeure de linguistique, d'analyse du discours et de didactique du français, ici à l'ULB. Alors pourquoi est-ce qu'on va aller discuter avec Laurence Rosier? Eh bien parce qu'elle a publié récemment un ouvrage qui s'appelle La Riposte et qui est sorti aux éditions. On se voit aujourd'hui parce que vous avez récemment écrit un ouvrage qui s'appelle La Riposte. Alors la riposte, ça peut être des tas de choses. Cette riposte-ci, c'est laquelle ?
Alors c'est venu de mon précédent travail où j'avais consacré en fait mes recherches à l'insulte. Et c'est vrai que quand je présentais ce livre, on me disait, mais comment répliquer, comment riposter? Et donc, le petit mot riposte a fait son chemin dans ma tête. Et c'est clair qu'au départ, c'est quand même un mot du vocabulaire militaire, hein, la riposte. Et on parle de riposte appropriée, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, en gros. Et moi, j'ai voulu en effet me dire, bah, tiens, en linguistique, on n'a pas vraiment étudié ce qu'était une riposte d'un point de vue verbal. Et puis, ça m'intéressait aussi de voir, puisque je parle de la riposte des femmes et des féministes, pourquoi est-ce qu'on envisageait finalement toujours leur discours comme des réponses à quelque chose, et pas comme initialement ayant suscité quelque part déjà une action et pas seulement une réaction. Et je voulais aussi rendre hommage finalement à toutes ces riposteuses de l'histoire, parce que c'est clair que depuis 2017 et l'affaire Weinstein, on a quand même beaucoup de ripostes, même si on a aussi beaucoup de violence, mais on a aussi beaucoup de ripostes qui ont été mises en place par les féministes. Mais ces ripostes, elles avaient une histoire. Et ça, j'ai voulu aussi la retracer. Donc, dans le livre, j'ai essayé à la fois de faire une cartographie contemporaine des ripostes, verbales, hein, bien sûr, j'y reviendrai. Mais aussi, tiens, ben, avant, il y a eu des précurseuses, évidemment, et aussi leur rendre cet hommage-là.
Alors partir de ce point de vue de linguiste, mais pour aller beaucoup plus loin, comme vous le disiez, avec un aspect historique, etc., ça demande une démarche différente.
Mais en fait, j'ai toujours travaillé comme ça, même sur l'insulte aussi. On ne peut pas seulement se dire « je vais travailler sur le mot ». Déjà, on va travailler sur le contexte, donc qui insulte qui, comme ici, qui riposte à qui, dans quelles conditions, quels sont les mécanismes de discours qui sont utilisés, parce que quand on dit riposte, on peut avoir une riposte éloquente, on peut riposter par le silence, on peut riposter par la poésie, on peut riposter par l'humour, et j'ai envisagé en fait tous ces types de ripostes. Alors, c'est pas un manuel, mais je pense que ça donne quand même pas mal d'idées.
Donc oui, ça peut effectivement être utilisé comme une sorte de boîte à outils.
Oui, même si c'est vrai que les féministes ont déjà utilisé ce terme, et notamment l'autodéfense verbale. Je pense par exemple à l'association Garance, hein, qui le fait, mais dans des conditions qui sont parfois pas du tout comiques. Hein, mais ici, c'est aussi parfois se dire, vous savez, on vous a insulté il y a 10 ans, et on va se préparer une bonne petite réplique aujourd'hui entre nous pour et ça marche aussi en fait de se dire j'ai l'esprit d'escalier, j'ai pas pu riposter et ça me reste parce que je voulais pas non plus qu'il y ait une injonction à la bonne riposte, hein, comme argumente bien, sois éloquente, etc. Ben non, je peux rougir, je peux broubeler comme on dit, je peux quand même riposter comme ça. Donc c'est aussi sur la diversité de tous les modes d'intervention que j'ai voulu aussi essayer de répertorier en fait.
Alors du coup, comment est-ce qu'on a attaque ça quand on a un plan de départ qui est quand même impressionnant.
Oui, alors
on prend une année sabbatique, c'est ça?
Oui. J'avais demandé une année sabbatique que j'ai obtenue, mais sur un tout autre projet. Et puis les éditions Payot m'ont contacté en disant on a envie de travailler avec vous. Bon, ça ne se refuse pas. Et alors j'ai fait évidemment ce que je fais toujours, c'est un super beau plan que j'ai envoyé et que je n'ai pas respecté. Mais je sais parce que j'ai comme ça, quand je commence à écrire, les idées viennent. et l'inspiration suit un tout autre fil, mais c'est bien d'avoir une table des matières qui me permettait de dire qu'en effet, je voulais voir riposter en grammairienne. Il n'y a pas beaucoup de grammaires de référence de femmes, elles existent, mais on ne les cite pas. Pourtant, la grammaire au Moyen-Âge était représentée par une femme avec un couteau. Et chaque fois, je tombais sur des choses comme ça. Et alors, je me disais, voilà, je vais organiser. Donc, je me suis aussi, j'ai retrouvé le plaisir qu'on a quand on fait une thèse, c'est d'avoir tout le temps pour la recherche, d'aller traîner en bibliothèque, de laisser le fil de l'inspiration, avec après des parties que j'ai laissées tomber. J'ai pas tout gardé, mais ça m'a nourri aussi pour mes cours. Et donc, Le plan, je voulais une histoire de la riposte et à la fois une cartographie contemporaine, donc pour avoir des exemples qui parlent aux gens aujourd'hui et qui ne deviennent pas obsolètes au bout de 2-3 ans, et justement un ancrage dans des figures anciennes qui n'avaient pas déjà été mobilisées, parce que c'est vrai que les féministes depuis quelques années, elles ont repris la mythologie, les grandes écrivaines, et donc il fallait que je prend aussi des femmes qui ne sont pas nécessairement sur la place publique déjà ou qui ne sont pas connues.
Travailler sur la riposte, ça a été une évidence? C'était une envie qui traînait depuis longtemps? Quand on est contacté par Payot en disant « on a envie de faire quelque chose avec vous », tout de suite, il y avait cette idée de la riposte.
Oui, parce que, comme je l'ai dit, quand je faisais des ateliers autour des questions d'insultes, j'avais justement élaboré des petites mises en scène de riposte. Sous des modes ludiques, poétiques, etc. Et l'idée aussi que moi, j'ai jamais été, pendant longtemps, j'ai pas été une riposteuse du tout. Je suis très désemparée par la violence, par exemple. Sur les réseaux sociaux, j'essaye toujours d'être d'une politesse, mais presque obséquieuse, pour qu'on puisse pas me reprocher le moindre mot, etc. Donc, j'ai moi-même travaillé sur cette question. Et puis, je voulais quand même, parce que il y a un an, je me suis dit, c'est plié, quoi, la riposte. Et puis, depuis un an, on a l'extrême droite qui revient partout au pouvoir, Donald Trump qui a été réélu, on touche à des droits fondamentaux, les droits des femmes sont reculent. Je me suis dit, il y a une urgence, mais il y a une urgence aussi à essayer de fédérer et essayer d'avoir quelque chose qui nous donne un peu d'espoir. Parce que c'est clair que pour travailler depuis des années sur les discours de haine, et là maintenant, on pourrait travailler sur les discours masculinistes, etc. Et moi, j'avais envie de dire, je voudrais aussi voir comment s'en sortir. Et par la démarche créative aussi, parce que je mets beaucoup de je pense que cette démarche créative, d'ailleurs, Salomé Sacquet, elle le dit aussi, la démarche créative, il faut qu'elle garde, qu'elle soit là, parce qu'il y a une puissance dans la culture qui nous permet de dire des choses qu'on peut pas nécessairement dire de la même manière sur la place publique. Et donc, il y avait quelque chose de l'ordre de l'optimisme, qui d'ailleurs se répercute, je pense, quand je fais la performance que j'ai élaborée à partir du livre.
Justement, effectivement, venons-en à ça. Donc, c'est un ouvrage sur lequel vous avez travaillé pendant un an, peut-être même plus. Il a maturé auparavant. Mais juste un ouvrage, c'était peut-être un peu... ça vous semblait... Il y avait un goût de trop peu, Laurence Rosier. Vous avez voulu avoir un contact réel et direct avec le public?
Je crois que c'est venu de y a plein de choses. D'une part, depuis quelques années, je fais des collaborations avec des acteurs et des actrices du théâtre, notamment par exemple Camille Husson, Pierre Di Luca, qui a fait La Salope du village, Camille a fait Sexplay, et on s'est dit que des formes où on mêle le théâtre et puis une expertise linguistique, ça renouvelle, ça fait un genre hybride que les gens aiment assez bien. Puis, ça permet de toucher un plus large public. Je l'avais déjà fait pour mon livre sur le deuil, parce que je trouvais que finalement, parler du deuil de façon frontale, c'était complexe, donc une performance sur cette question était bien. Et puis, je me suis dit aussi, mon ouvrage, j'ai dû quand même négocier pour que ça reste un ouvrage à la fois scientifique et accessible. Parce que c'est vrai que j'avais dit à Payot, moi je veux pas simplement une cartographie contemporaine, une liste quoi, ou un manuel, c'est très bien, ça existe, moi je veux quand même qu'à un moment je mobilise de la théorie en disant, parce que nous on a appris à penser la riposte, et pourquoi on l'a pas déplacée sur les questions de genre par exemple, c'est des questions que je voulais aussi poser. Mais pour la communication autour de ce livre, j'avais envie justement d'adopter, alors à ce moment-là, dire, voilà, je voudrais que vous ameniez vers le livre, et la performance permet un moment collectif vraiment d'empouvoirment, quoi, où je fais rire les gens, enfin j'espère en tout cas, là il riait. je danse, j'ai une playlist ripostante où on a envie de chanter. Et donc, il y a cette mise en abîme de cette dimension performative du langage, de dire ripostons, mais déjà riposter ensemble en prenant du plaisir à parler de la riposte et à se dire c'est inspirant, ben voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et oui, parce que peut-être qu'arrivé à l'âge où je suis, je pense que je peux m'amuser, militer et chercher en même temps.
Ça veut dire que vous êtes seule en scène pour ces performances ?
Oui. Oui, oui, tout à fait. Je suis Rémi Brica, si vous avez la ref, comme on dit. J'ai un petit baffle, j'ai des accessoires. Voilà, parce que bon, j'ai fait du théâtre au Jeune Théâtre de l'ULB quand j'étais jeune, et c'est toujours quelque chose. Et là, j'avais envie de revenir aussi, sans doute, à cette forme que j'ai beaucoup aimée et que je trouve hyper intéressante. Mais voilà, c'est basique, hein, j'ai un PowerPoint, mais si j'ai pas le PowerPoint, je fais le PowerPoint moi-même avec des images que je montre, etc. J'y prends plaisir et je pense que je donne aussi un certain plaisir et une envie de lire mon ouvrage auprès du public qui y vient.
C'est ça l'idée derrière la performance, elle est liée à une présentation du livre, c'est pas une performance qui peut vivre, je veux dire, de manière indépendante ?
Si, elle pourrait tout à fait, oui, parce que j'explique quand même, voilà, au départ il y avait l'insulte, et puis bah, d'où ça vient la riposte, et puis je donne les différents types de riposte. Et d'ailleurs, j'ai un projet, mais je vais pas, justement, avec des actrices, de faire un vrai spectacle, c'est-à-dire avec des comédiens, des comédiennes professionnelles, et moi, je sais pas où, mais un peu dedans. Donc, oui, si, en effet, ça peut être tout à fait vu. Sans qu'on ait besoin du livre, c'est le livre qui évidemment la nourrit, mais oui ça peut tout à fait, ça pourrait tourner de façon indépendante.
Mais à vos yeux, dans l'idée de base du projet, les deux sont évidemment liés, ce sont peut-être deux facettes du même travail.
Oui, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du prof aussi, du côté pédagogique quand même, c'est comment on communique et puis de surprendre un peu. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est aussi un mouvement un peu aujourd'hui dont je parle comme riposte, c'est-à-dire c'est mettre en voix son texte. On voit des écrivaines qui le font beaucoup, toutes ces dimensions aussi de la nouvelle poésie, du slam, etc., où on a envie de se réapproprier une parole collective que l'on partage. Et je pense que voilà, je suis un peu le mouvement. On n'est jamais voilà, et que d'autres personnes le font et que sans doute j'ai eu envie d'embarquer parce que ça me semblait une manière de communiquer didactique et pédagogique qui était intéressante pour moi.
Oui, et qui fait tout à fait sens, effectivement, comme vous le disiez, vous êtes plusieurs heures par semaine face à des étudiants, quelque part, donner cours, c'est aussi être en performance.
Oui, et ça influence un peu, parce que bon, ça c'est l'âge aussi, mais c'est vrai que dès que j'ai un micro en main, je dis pas que je fais le clown, hein, mais...
Vous mettez à chanter.
Je ferais bien, tout à l'heure je leur ai chanté la Marseillaise et l'hymne des femmes, un petit peu avec mes étudiants et étudiantes, mais oui, il y a cette, en tout cas, c'est vrai que l'aspect théâtral quand même qu'il y a dans une certaine démarche pédagogique, voilà, tout se nourrit en fait, c'est un peu ça. Et ma recherche a toujours été, enfin quand même depuis de nombreuses années, axée aussi sur des sujets socialement vifs. Et donc il faut aussi se dire que la communication, elle est en soi importante, la vulgarisation aussi, au sens noble du terme. Moi j'ai toujours pensé justement que la vulgarisation était quelque chose de très noble, et il y a une urgence pour moi aussi, peut-être aussi par rapport à la société telle qu'elle est aujourd'hui, à se dire il faut, parce qu'il y a aussi tout un discours anti-intellectuel qui s'est développé, on le voit aussi, hein, anti-universitaire, et que là dire il faut qu'on soit l'université dans la cité, il faut se donner la main et ne pas se tromper d'ennemis et être ensemble contre, en effet, la discrimination, les violences, les stigmatisations et les discours de haine.
Cette riposte, vous y avez travaillé donc plusieurs mois, hein, Laurence Rosier. Qu'est-ce que vous y avez appris en travaillant là-dessus ?
Plein de choses. Beaucoup de choses. C'est-à-dire... J'ai vraiment essayé d'avoir une approche en effet dialectique de la question de la riposte, c'est-à-dire vous voyez cette question qui était, tiens, finalement, les modèles. Il y a un passage que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai pris le temps de développer, c'était cette admiration qu'on a pour l'éloquence. Il y a des concours d'éloquence, on considère évidemment que c'est vraiment une forme d'émancipation sociale, etc. Ce que je pense, mais en même temps, je trouvais que c'était quand même aussi, c'est l'éloquence à l'antique, quoi. Donc, on nous parle toujours à ce moment-là des modèles de rhétorique et d'argumentation qui sont quand même, qui ont été, et c'est normal, conçus de façon très masculine. Et j'avais envie de dire, où sont les oratrices finalement et les modèles. Et donc là, je me suis dit, il faut essayer de trouver des nouveaux modèles et qui existaient en fait. Parce que quand on voit dans le domaine anglo-saxon, j'ai trouvé un courant qui s'appelle la rhétorique invitationnelle de Sonia Foss et de sa sœur, où elles font des études et en effet, l'une dit, j'ai un cours d'éloquence et je veux faire un truc sur les oratrices et je me rends compte qu'il n'y a pas d'oratrice. Et donc la rhétorique invitationnelle, c'est pas une rhétorique où on va clouer le bec à l'adversaire, où le but c'est de séduire l'auditoire, de persuader, c'est d'écouter l'autre. Et je me suis dit, tiens, ça quand même c'est pas mal quoi. Cette rhétorique où on essaye d'être beaucoup plus dans l'écoute et pas dans la mise en scène de soi, parce que c'est ça, la belle éloquence à la Cyrano de Bergerac, c'est l'autre apparaît diminué, je lui cloue le bec et j'ai raison. Donc voilà, et ça j'ai trouvé vraiment intéressant parce que si vous voulez, c'est parce que j'ai eu le temps d'aller chercher. J'avais une intuition qui était bonne, mais je ne trouvais pas nécessairement les assises théoriques. Et ça, quand on prend le temps long de la recherche, parce qu'on est aussi dans la recherche souvent, et surtout les jeunes chercheurs et chercheuses, ils doivent produire. Et là, j'ai eu le temps de pouvoir lire, laisser reposer et infuser. Donc puis j'ai été découvrir, je la connaissais un peu, Marie de Gournay, par exemple, qu'on présente toujours comme l'amie de Montaigne, l'éditrice de Montaigne, et qui... Alors, les milieux autorisés de la philosophie, de la philologie la connaissent, mais c'est quelqu'un qui, quand on la republie, par exemple, au début du XXe siècle, on dit, elle était laide, c'était une vieille folle à chat. Et je me dis, vieille folle à chat, tiens, célibataire à chat, ça me fait penser à quelque chose. Et donc, il y avait parfois des éclairs de modernité dans les attaques en disant, malheureusement, c'est encore des choses que l'on entend aujourd'hui. Et donc, voilà, il y avait vraiment cette joie de trouver dans l'histoire... cette joie et en même temps ce côté un peu désespérant de dire il y a des éclairs comme ça de liens qui se font entre le passé et le présent et ça c'est quelque chose dans ma recherche que j'aime beaucoup faire quoi, tisser ces fils pour montrer ce qu'on appelle dans mon jargon des lignées de discours et qui souvent en effet pour les discours très stéréotypés et très de violence en fait ils ont une histoire qui remonte très très loin.
Alors ici, votre recherche, c'est une recherche qui est peut-être d'une certaine manière au départ un peu plus livresque. C'est parce que je pense par exemple à vos ouvrages précédents sur l'insulte, où là il y avait de l'analyse de terrain, de l'usage de l'insulte. Est-ce qu'ici on retrouve ça aussi dans la riposte, la riposte au quotidien ?
Oui, tout à fait. D'abord, il y a des anecdotes qui sont reprises à des personnes que j'ai rencontrées qui me racontaient leur riposte. Je parle aussi parce que d'un point de vue du style, il y a des passages où je parle de moi, de ma mère, ce qu'elle considérait comme vulgaire, par exemple, parce que la vulgarité est aussi une manière de riposter, puisque la vulgarité, c'est la plupart du temps la femme qui l'ouvre aussi, que l'on juge comme ça. Donc oui, c'est parsemé aussi d'exemples personnel issu notamment des ateliers riposte que je fais depuis quelques années, notamment au festival Féministe Toi-même. Je fais des masterclass en riposte et qui sont complémentaires justement des ripostes féministes d'autodéfense verbale. Donc oui, j'ai aussi nourri du quotidien comme ça les petites ripostes en effet parce que je pense que les petites ripostes elles sont quotidiennes simplement de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de pouvoir rappeler à l'autre ce qu'il nous dit si ça nous déplaît ou si c'est incongru. Et je pense que là, c'est dans le quotidien que justement, il y a encore énormément de stéréotypes inconscients qui sont là, quand ce n'est pas parfois ce retour de bâton hein, dont on parle, qui est on ne peut plus rien dire, donc on va en rajouter une couche dans le petit compliment sexiste et autres, et dire, mais même là, en fait, ce petit travail au quotidien, c'est déjà un travail politique. Et de dire que chacun peut, à sa manière, faire sa riposte, et qui peut être une riposte, à un moment, je parle des ripostes en douceur. Hein. Une douceur insistante, certes, mais et donc entre la douceur, la vulgarité, on a le choix, voilà.
Et travailler sur la riposte, ça, ça vous a amené une certaine forme d'optimisme, vous disiez. Donc on peut riposter sans être mordante ou agressive.
Oui, ça dépend des moments, je pense aussi. Et puis. Je cite beaucoup d'exemples issus de l'art, et dans la création, c'est vrai qu'on peut, il y a ce média où on peut, à un moment, développer une agressivité, une colère, mais qui est une mise en scène, qui est scénographiée, bien entendu, hein, donc, ou dans les chansons. Mais c'est clair que l'optimisme, on en a besoin, parce qu'aussi, dès qu'on riposte, il y a des contre-ripostes. Et moi, ce que j'ai essayé de défendre aussi, en disant, bon, la riposte, elle ne nous appartient pas. On peut dire une riposte masculiniste, ça marchera aussi linguistiquement, on peut aussi la définir. Par contre, une poétique de la riposte, et ça, c'est ce que j'essaye de définir. Ça doit être progressiste, ça doit être féministe. Et justement, c'est sans injonction. Et je me suis même essayé, à la fin de mon livre, quand je définis la poétique de la riposte, je fais un texte poétique, en fait. En disant, elle doit être ça, et puis elle doit être tout son contraire, en fait. Elle doit être sombre et lumineuse, voilà, touchante et insensible. Enfin, et c'était agréable pour moi aussi d'essayer de tirer, finalement, l'écriture scientifique vers d'autres manières, d'autres modèles que le modèle dans lequel, bah, voilà, on a appris, finalement, hein, que on devait écrire au nous, on devait un peu s'effacer devant les grandes figures. Et je pense que ça aussi, il y a un bouleversement d'un type d'écriture qui est peut-être parfois plus ethnographique et où, de nouveau, le personnel, à un moment, je raconte que, bah oui, moi, je citais Louis Althusser sans problème dans mes cours, et puis je savais qu'il avait tué sa femme, mais c'était un coup de passion, bien sûr. Et puis je me suis dit, bah, en fait, non, c'est un féminicide. Et d'autres l'avaient dit avant moi, mais on n'avait pas mis ça sur la place publique. Donc, mes cours aussi sont nourris. Ça ne veut pas dire que je ne parle plus d'Althusser, mais quand j'en parle, je dis, vous savez, voilà, je resitue en hein, disant, parce qu'il y a même des féministes, comme Judith Butler, qui utilisent des concepts d'Althusser, mais je resitue. Parce que malgré tout, il faut savoir que les grands intellectuels, ben voilà, ils ont aussi commis des méfaits qui, à l'époque, n'ont pas du tout été mis en avant. Hein. Il n'y a pas que Cantat, il y avait aussi toute une série de... On appelle ça les théoriciens problématiques. Enfin, la plupart du temps, ils ont tous été un peu problématiques. Alors, ça veut dire, comment ferait-on cours si on ne peut plus en parler? Mais voilà, ça remodèle nos manières d'ancrer historiquement et politiquement nos cours aussi.
Cette manière d'écrire, pour vous, c'était pas quelque chose de neuf, Laurence Rosier. Il vous était déjà arrivé de vous éloigner de l'écriture académique.
Oui, justement, dans le journal de deuil que j'ai publié juste avant, j'avais en effet pratiqué la prose poétique. Mais disons que là, c'était clair, je parlais de deuil. Ici, comme j'ai quand même écrit aussi pour mes collègues linguistes, il fallait aussi que ça soit un peu... voilà, j'ai envoyé des livres. Pour le moment, j'ai des bonnes réactions aussi du monde scientifique, en tout cas des gens dont la vie me touche. Mais c'est vrai qu'il y avait une certaine prise de risque en disant, voilà, parce que dans où est-ce qu'on va classer ce livre? Mais finalement, comme... De façon générale, je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'hybridité des genres. Hein, souvent, on a quelque chose qui sort, on dit c'est un témoignage, mais c'est poétique, ça raconte des violences, mais il y a des rimes. Et donc, ce genre hybride, c'est quelque chose qu'on pratique aujourd'hui et dans lequel j'ai essayé de m'inscrire avec cette façon quand même scientifique de recherche. Voilà.
Mais c'est aussi évidemment une porte d'entrée sur la vulgarisation, puisque en étant plus hybride, on s'ouvre à un autre public.
Oui, tout à fait. Avec ce fil, hein, en disant ça va pas se lire comme un roman, même si j'ai quand même lu une ou l'autre collègue qui m'ont dit oh, ça se lit comme un roman. J'ai conscience que y a des passages qui sont parfois un peu plus théoriques, mais tout de suite après, je vais mettre un exemple frappant de l'actualité pour dire, voilà, hop, Et ça, c'est ce que je me dis, bah, tiens, en fait, c'est ce que je fais en pédagogie. Et parfois, je dis, bah, il va falloir un peu, c'est normal. La complexité et la richesse, bah, ça, c'est parfois, c'est pas toujours fun, quoi. Donc, il faut parfois prendre le temps de s'arrêter et puis de dire, après, on donne un exemple éclairant. Et puis après, on se dit, ah, bah oui, oui, alors j'ai compris. Donc voilà. Mais c'est clair qu'il y avait cette idée, comme je l'avais fait avec l'insulte, de toucher un public plus vaste que. Je continue encore hein, d'écrire des articles scientifiques pour un petit public, parce que voilà, c'est un autre type de travail, mais j'essaye d'articuler les deux. Et les livres, ça, vraiment, l'idée, c'est quand même d'écrire pour le plus grand nombre.
Et j'ai l'impression, en vous entendant, Laurence Rosier aussi, d'écrire pour le plaisir.
Oui, même si... Alors, c'est pas toujours... Je crois qu'avant, j'écrivais vraiment avec des larmes de sang, j'ai l'impression. Ici, bon, à force d'écrire, ben, c'est un peu plus facile... et il y a parfois, oui, voilà, il y a une espèce de jouissance d'écrire dans le long, mais parfois, quand ça vient pas, même quand on est en année sabbatique, et puis pendant une semaine, vous dites, ça tourne dans votre tête, mais moi, je sais que ça peut tourner dans ma tête, et puis quand je commence à écrire, c'est tout à fait autre chose qui va sortir. Et parfois, j'ai peur de ça aussi, de dire, quel fil va encore aller m'entraîner, là, comme, comme un fil d'araignée, comme je le dis dans mon livre. Mais oui, il y a ce plaisir de communiquer, et aussi ce plaisir, parce que j'ai essayé de ponctuer mon texte de punchline aussi. Hein, donc, et là, il y avait en effet ce plaisir, mais je pense que, en tout cas, moi, mon travail me le permet, même si je travaille sur des choses très lourdes, mais il faut avoir un plaisir quelque part, parce que sinon, travailler sur les discours de haine et vous n'avez pas de plaisir à écrire en plus, ben, ça deviendrait trop lourd. Donc il faut toujours transformer même ce qui est affreux, même un discours de haine, dans mes ateliers, ben, on essaye de le transformer en poésie, parce que j'avais appris ça aussi dans... pour dire, même ça, on va en faire quelque chose qui peut être un moment joyeux pour que nous, on puise nos forces, à la fois pour poursuivre le travail scientifique et aussi pour poursuivre les luttes.
Alors, des ateliers riposte, vous en organisez depuis un certain temps déjà, Laurence Rosier. La riposte, c'est quoi ? Ça demande un entraînement ? C'est une gymnastique de l'esprit ?
Mais oui, parce qu'en fait, on nous présente toujours aussi de belles ripostes, par exemple, de répondre par une citation ou de répondre avec l'esprit d'à propos, etc. Ben, ça, on n'a pas toujours un alexandrin dans sa poche, hein, c'est ce que je dis. Par contre, c'est vrai se dire, même si moi, je suis pas une riposteuse, mais je vais à un atelier et là, je vois différentes manières de riposter qui ne sont pas nécessairement du tac au tac, parce que c'est ça. Eh bien, voilà, je peux parfois, par exemple, ne pas répondre et puis 3 jours après dire à la personne, tu sais, quand tu m'as dit ça, en fait, j'aurais pu te répondre et ça peut faire du bien aussi. Donc, c'est vrai que c'est élaboré. Je vous dis, hein, par exemple, transformer un texte de haine en texte poétique. Hein, on prend un dictionnaire, on dit, tiens, je vais prendre le 5e mot qui suit l'insulte. Et puis, ça devient un texte presque surréaliste. Je travaille aussi sur changer les exemples des grammaires, parce que malgré tout, les grammaires, elles ont encore des exemples soit un peu sexistes ou très centrés sur des prénoms Pierre mange une pomme, etc. Ça existe encore, malheureusement. Et bon, on peut changer cela. Voilà, d'essayer de dire, on peut être créatif, mais là, on prend le temps. Et quelque part, ça soigne aussi des blessures ou de ce qu'on a reçu ou sur le coup, ben, on n'a pas répondu. Et avec le droit aussi de pas répondre, hein, le droit de dire ben non, j'ai pas envie d'entrer dans cette discussion, le droit de se taire en se disant se taire c'est temporaire peut-être parce qu'après. Donc voilà, c'est vraiment essayer de ensemble réfléchir et se dire c'est collectivement aussi que cette riposte elle doit se faire. Parce que bah, l'action politique, elle est collective.
C'est peut-être même encore plus important aujourd'hui. Vous le disiez en début d'interview, quand vous avez commencé à écrire cet ouvrage, il y avait certaines choses que vous aviez à l'esprit. Mais depuis, la situation ne s'est vraiment pas améliorée. Et donc, il y a aussi, je suppose, là derrière, une envie d'apporter quelque chose à la collectivité et au discours de riposte généralisé.
Oui, on parle de résister. Ça, c'est vrai que ça, le message, c'est résister. Et pour moi, le verbe résister est plus chargé aussi, je pense, à la résistance. Enfin, voilà. Il est plus immédiatement politique. Riposte, il est un peu, parce qu'on l'entend tout le temps dans les médias, hein, Trump riposte. Et donc, il y a aussi, voilà, pour moi, lié au langage, mais le langage, il est quand même tout le temps là, partout. Et pour moi, c'est un continuum. Et si on commence même à riposter, en effet, de façon ludique, ça nourrit une résistance qui peut être plus politique, parce que ça permet, voilà, des articulations entre les différents types de discours collectifs à mettre en place. Et donc c'est clair que je pense que plus que jamais ces questions sont d'actualité et j'espère en effet que elles pourront nourrir des réflexions qui sont plus directement politiques, je veux dire voilà.
Et votre riposte, elle se destine à tous, ou enfin toutes et tous, ou plus particulièrement aux femmes?
Oh non, pour moi, j'ai voulu être inclusive, d'abord aussi par rapport à, je dis souvent, femmes et minorités de genre, voilà, hein, parce que j'ai ce féminisme tout à fait ouvert et qui n'est pas du tout essentialisant, mais c'est clair que les alliés que peuvent être les hommes, ben, j'espère, même si, je sais, hein, dans mon public, j'ai quand même toujours beaucoup plus de femmes, toujours beaucoup plus de lectrices, mais j'ai quand même aussi des lecteurs, et je pense que, ben, d'abord, ils apprendront certainement des choses aussi, hein, sur l'histoire des ripostes. Et puis après, je me dis, bah, ils peuvent aussi eux faire l'histoire, par exemple, des ripostes des alliés des femmes. On pourrait le faire, hein, cette histoire-là, de dire qui, à un moment, a défendu les femmes dans l'histoire. Ça serait intéressant. Mais bon, c'est pas toujours à nous d'écrire aussi toutes les histoires, parce que bon, on fait déjà notre job, mais là, vous voyez, rien qu'en discutant, je me dis, oui, ça serait voilà, ça serait quelque chose qui serait intéressant de voir, tiens, la riposte 2, hein, comme le malgaise de la riposte, quoi, mais au sens positif du terme, évidemment.
Mais c'est vrai que vous parlez là d'alliés, je suppose que eux aussi doivent de temps en temps se retrouver perdu face à des discours masculinistes qu'ils ne partagent pas. Là aussi, la riposte féministe peut être utile.
Oui, et je pense surtout dans... alors, on stigmatise beaucoup les jeunes, hein, mais quand on voit les masculinistes, ils ont tous les âges, et ils sont même plus âgés, hein, que les jeunes. Mais c'est clair que dans l'éducation... c'est là qu'on construit et on déconstruit les stéréotypes. Donc c'est vrai que le développement de l'écoute, tout ce qu'on, je fais tout un excursus sur, en effet, la galanterie, enfin tout ce dans quoi on nous a aussi et on les rend prisonniers aussi, parce que, hein, quand un homme naïvement dit, bah, maintenant qu'est-ce que je fais, je dis, bah, tu tiens la porte et je te tiens la porte, et c'est la politesse partagée. C'est des modèles qui évoluent, mais on les fait évoluer ensemble. Et c'est clair que les injonctions à la virilité, à la masculinité, ou à être finalement un bon fils, un bon père, etc., ça se déconstruit ensemble. Donc c'est clair que par rapport à la riposte ici, c'est évidemment arrêter de traiter les femmes qui ripostent parfois verbalement, de façon agressive, dans des chansons, etc., de les traiter d'hystériques déjà, hein, bon, voilà. Mais bien entendu, il y a ce parcours qu'on espère, évidemment, ce cheminement qu'on espère collectif, avec des moments où on a besoin, évidemment, de se dire, bah, d'abord, on va faire la sororité, et puis, parce que là aussi, c'est clair que, hein, on essaye, évidemment, de développer la sororité, et c'est pas toujours facile. Moi, ça me blesse encore plus, évidemment, quand une femme qui a un discours contre les femmes. Là, c'est là que je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne développe pas cette sororité qui nous rendra plus forte et puis qui nous fera solidaires, de façon au-delà du genre.
Ben on va sans doute en rester sur ces très bons mots, Laurence Rosier. Donc la riposte « Femmes, discours et violence » publiée chez Payot, on le trouve où?
Dans toutes les bonnes librairies. Oui, on le trouve dans toutes les librairies indépendantes, dans certaines grandes enseignes, mais pas toutes, parce que j'ai comme ça appris que certaines enseignes mettent Bardella en une des ventes, mais ne prennent pas les livres de Payot. Voilà, je n'en dirai pas plus, je ne citerai pas, mais voilà, parfois on apprend de drôles de choses. Mais après, il peut toujours évidemment se commander dans les librairies qui ne le posséderaient pas, mais normalement, voilà, il est bien distribué. C'est quand même une maison d'édition française, donc on est bien distribué.
Et pour les auditeurs qui voudraient, pas seulement pouvoir s'offrir le livre, mais aussi assister peut-être à l'une des présentations dont vous parliez.
Oui, alors le 16 avril, ce sera à la librairie Les Herbes Folles à Anderlecht, le 17 avril au Petit Théâtre Anatole à Bruxelles, et puis le 7 mai, ça sera à Lacambre. Donc voilà, c'est des dates, et si vous voulez en effet partager la riposte, la playlist et les punchlines, venez.
C'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Laurence Rosier de m'avoir accordé cette interview. Je vous rappelle donc, la riposte se trouve dans toutes les bonnes librairies. La riposte éditée chez Payou. Voilà, plein de chouettes moments prévus pour voir la riposte en live également. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour une autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What